Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Il y a quelques semaines, en région parisienne, était arrêté Félicien Kabuga, recherché pour son rôle central dans le génocide commis au Rwanda d'avril à juillet 1994. L'homme était établi en France depuis plusieurs années sous une identité d'emprunt. Il était jusqu'à son arrestation l'un des derniers grands responsables du génocide rwandais, encore en liberté et en vie. En tant que financier du génocide, il était aussi le plus recherché. Comme pour les tueurs de masse des plus grands crimes de l'histoire contemporaine, on se demande qui sont ces hommes capables de tuer à la chaîne, ce qu'ils éprouvent dans leur conscience. On s'interroge sur leurs ressentis face à l'horreur de leurs actes et au manque de compassion pour leurs victimes. Notre invité, Richard Rechtmann, anthropologue et psychiatre, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, pour son livre « La vie ordinaire des génocidaires » aux éditions du CNRS, bonjour.
Bonjour.
Félicien Kabuga fut l'une des pièces maîtresses du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, en mettant sa fortune et ses réseaux au service du financement des tueries, selon l'acte d'accusation. Le Fonds de défense nationale qu'il avait créé servait à l'achat d'armes, notamment des machettes pour les milices Hutus. Félicien Kabuga était par ailleurs président du comité d'initiative de la tristement célèbre radio-télévision libre des Mille Collines, qui propageait l'idéologie Hutu extrémiste et des discours d'incitation à la haine contre les Tutsis. Il est également accusé d'avoir directement supervisé certains massacres. Il a été arrêté donc le 17 mai dernier en banlieue parisienne, après une dizaine d'années passées en France. Richard Rechtmann, que vous inspire la figure de Félicien Kabuga et cette cavale de plus de deux décennies ?
Écoutez, je trouve que c'est malheureusement une figure très classique de ces personnes qui ont participé à l'extermination massive d'une grande part de leur population. Classique au sens où son histoire personnelle n'a rien d'exceptionnel. Il va se trouver au cœur d'une nouvelle configuration au moment où le génocide va être entamé. Il va en profiter largement pour faire d'abord fortune aussi, pour obtenir une position sociale privilégiée et pour appliquer à la lettre ce qu'il va penser, ou on ne sait même pas s'il l'a vraiment pensé, ce qui va lui permettre de développer cette politique et cette stratégie. Donc à ce titre-là, c'est un homme qui est assez banal, je dirais, et assez représentatif de ce que vont être les architectes de ces massacres contemporains. De même, sa fuite est assez typique et montre aussi le caractère finalement peu idéologique. C'est-à-dire quoi, une fois que les faits sont commis, il pense avant tout à se protéger. Il ne va pas défendre sa cause devant les uns et les autres. Il ne va pas rentrer dans une sorte de résistance pour mobiliser, pour défendre sa cause. Il va juste chercher à défendre ses intérêts en se cachant, se dissimulant, faisant en sorte que la justice ne puisse pas le rattraper.
Alors justement, Félicien Kabuga a été pris au petit matin dans un petit modeste appartement de la banlieue parisienne, à Nières très précisément. Comment vit un homme traqué, Richard Rechtmann, qui a par ailleurs mis toute sa famille à son service? Comment vit-on lorsque l'on est traqué?
Oh, ça doit sans doute être difficile parce qu'il faut pouvoir se protéger. En même temps, je ne suis pas entièrement convaincu que l'ordinaire soit si complexe que cela parce que finalement, avec une autre identité, dans un univers où on ne le connaît pas, eh bien, il fait ce qu'il a à faire, il est apprécié des uns et des autres, il est un peu transparent, comme le personnage doit l'être d'ailleurs, et trouve une vie relativement calme. Et puis au moment où il est sur le point de se faire arrêter, il semble qu'il ait un réseau qui puisse le protéger. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec un résistant qui doit passer de cache en cache, qui doit en même temps qu'il se cache programmer des actions. C'est pas du tout le même registre. On n'est pas face à un combattant qui est là en train de se dissimuler. On est là face à un homme qui cherche avant tout à sauver sa peau, mais pas à sauver sa peau, à ne pas avoir à rendre compte de ses actes.
Alors, une vie de toute manière un peu particulière. J'ai souvenir de ces militaires argentins qui, après la junte, vivaient reclus, cachés, ne sortaient que la nuit. Vous dites, vous, que les génocidaires sont des hommes qui, somme toute, dorment plutôt bien la nuit. Et c'est l'objet même de votre ouvrage, c'est le côté ordinaire, vie ordinaire des génocidaires. Et vous rejoignez là, finalement, totalement notamment Hannah Arendt, Richard Rechtmann.
Je suis très influencé par Hannah Arendt, comme tout le monde, je dirais, parce que c'est véritablement une pensée d'une très grande force, même s'il faut aller un peu au-delà. Quand Hannah Arendt utilise la banalité du mal, c'est pas tant pour en faire un concept que pour en faire une notion qui va lui permettre de sortir de la figure du monstre ou de la figure héroïque et de montrer que finalement Eichmann est un homme qui n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est un homme plutôt médiocre. La banalité chez Arendt est vraiment du côté de la médiocrité. C'est un homme dont les circonstances vont faire non pas un grand homme, mais un homme avec plein de pouvoir, pour des raisons finalement moins idéologiques que des raisons pragmatiques. Et c'est cela son combat. Dans Eichmann à Jérusalem, elle veut absolument montrer que c'est pas un idéologue forcené, qu'il n'est pas là à vouloir absolument tuer du juif, il est là à vouloir faire carrière. Ce qui n'est pas du tout la même chose que ce qu'on a voulu lui prêter. Et c'est aussi pour cela qu'elle va s'opposer au gouvernement israélien de l'époque, qui veut en faire la figure par excellence de l'architecte de la Shoah. Elle dit non, c'est pas la figure de l'architecte, c'est l'homme banal qui a trouvé là une opportunité, sans se préoccuper plus que cela du devenir de ceux qui allaient passer sous ses griffes ou sous sa politique. Et ça, je crois que c'est un point très important que l'on retrouve chez énormément de génocidaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils dorment bien, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir fait des choses épouvantables. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire par rapport aux objectifs qu'ils s'étaient fixés. Et c'est aussi pour ça, et c'est le drame le plus souvent, le plus fréquent, c'est qu'ils peuvent aussi facilement se réinsérer dans la société après. Ça ne devient pas des tueurs acharnés à vouloir répéter leurs actes, parce qu'ils n'y ont plus autant d'intérêt qu'auparavant. C'est une autre lecture que je propose là, c'est-à-dire de se décentrer un petit peu par rapport à la question de la mise à mort comme étant l'enjeu central pour resituer les choses vis-à-vis de l'enjeu central pour la personne, pour les individus, pour les groupes et des intérêts qu'ils vont trouver dans leur carrière à faire ce qu'ils ont eu à faire.
Alors précisément pour rebondir sur ce que vous dites là, vous écrivez dans votre ouvrage « Les génocidaires sont les hommes les plus disponibles, ils sont désœuvrés, en échec scolaire, atteints de troubles psychologiques, des individus qui ont une revanche à prendre, qui rêvent d'une promotion sociale, de reconnaissance et des personnes effectivement indifférentes au sort de leurs victimes. » Pour en revenir à la question proprement parlée du génocide du Rwanda, quel rôle les idéologies ou l'idéologie a-t-elle joué dans
Alors,
ce génocide ?
L'idéologie joue toujours un rôle, parce qu'elle prépare le terrain et elle donne la possibilité, la légitimité. Moi, j'essaie de montrer que l'idéologie, c'est-à-dire le contenu, est moins important que l'idéologie comme contenant. C'est un point, à mon avis, est essentiel, dans la mesure que si on compare les différents génocides, on voit que l'idéologie joue le même rôle, alors que ce sont des idéologies totalement différentes. Ça veut dire qu'on ne va pas expliquer le caractère génocidaire par la nature de l'idéologie. Ce qu'on a fait, par exemple, pendant un temps où certains voulaient montrer que chez les Khmer Rouges, par exemple, c'était l'idéologie communiste, voire maoïste, qui était au cœur de l'explication. Sauf qu'à côté, vous aviez trois pays qui avaient basculé de la même manière dans le communisme et qui n'avaient pas produit un génocide. Donc on peut difficilement imaginer que la seule idéologie suffise. De la même manière, on ne peut pas expliquer ce qui se passe au Rwanda par la seule idéologie, la nature de l'idéologie anti-Tutsi, puisque finalement vous allez retrouver la même chez les nazis, vous allez retrouver la même chez les nationalistes serbes. Donc le contenu est moins important que la forme que ça va prendre, c'est-à-dire la possibilité de séparer au sein d'une même population des individus à éliminer et des individus à ne pas éliminer. Et cela est un point essentiel parce que lorsqu'on s'imagine après qu'il suffit de désidéologiser les gens pour que les choses fonctionnent et que tout s'arrête, eh bien on se trompe, n'importe quelle idéologie peut permettre cela. Et surtout, on se rend compte que ce ne sont pas les plus convaincus par l'idéologie qui vont accomplir la tâche. Parce que les plus convaincus, ce sont ceux qui vont donner des ordres, ou ceux qui vont, dans le cas du Rwanda, être à la tête de la radio Mille Collines, envoyer des messages qui vont simplement leur permettre d'agir conformément à une règle qu'ils pensent possible dans leurs intérêts personnel ou collectif. C'est-à-dire qu'il faut réintégrer, me semble-t-il, la place des intérêts individuels, des enjeux, c'est ce que je vais appeler la disponibilité. Ces deux facteurs, pour moi, qui sont essentiels, c'est la disponibilité et l'indifférence. L'indifférence à la mort des autres, qui n'est pas une indifférence complète, parce qu'ils ne sont pas indifférents à la mort ou à la souffrance de leurs proches, ou à la leur. Ils ne sont surtout pas indifférents à la leur, puisque ce qui va les préoccuper au maximum, c'est de faire un travail qui leur soit le moins pénible possible, en limitant au maximum les inconvénients que ça peut avoir. Donc ils sont dans une logique assez ordinaire. C'est ça que j'appelle l'ordinaire. C'est véritablement une dimension pragmatique de la vie.
Alors l'autre, qui est l'ennemi, finalement apparaît comme un être totalement chosifié, Richard Reichmann, c'est-à-dire qu'on est sensible à ses proches, à sa famille, à soi-même, mais dans le cas d'un génocide, on peut parler peut-être de clivage des personnalités, je ne sais pas. En tout cas, l'autre n'est plus un être humain à proprement parler, c'est l'ennemi, c'est une chose à abattre.
Alors, ça serait finalement l'hypothèse la plus rassurante. C'est-à-dire qu'au fond, il y aurait une sorte de clivage et on se rendrait compte que l'autre est un autre. Et puis finalement, on trouverait un moyen psychopathologique ou psychologique pour faire en sorte qu'il ne le soit pas. Je crois que les choses sont malheureusement plus simples et que l'autre n'existe pas, point barre. Celui que l'on tue n'existe pas en tant que tel. Ça ne veut pas dire qu'on lui dénie le fait d'être un homme. Ils le savent. Parce que si on prend justement cette lecture de la vie ordinaire, certains avaient imaginé justement, comme vous me le dites, qu'on pouvait se dire il y a un clivage au moment où on tue, on ne se rend pas compte qu'on est en train de tuer quelqu'un. Sauf que si vous regardez le quotidien, ces gens sont dans la mort tout le temps. Ils préparent les armes, ils préparent les fosses, ils se posent la question de comment ils vont gérer les corps, parce que ça c'est la chose la plus importante. Comment on gère les corps après? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc il est impossible d'imaginer qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent parfaitement bien. Et ça ne leur fait rien de tuer. Par contre, ça leur fait quelque chose d'avoir à gérer les corps, de devoir les porter, de devoir les enterrer. Qu'est-ce qu'on en fait? Tout cela montre qu'il n'y a pas ce clivage. Il y a une indifférence par rapport à cela. Il n'y a pas d'empathie vis-à-vis de ces individus parce qu'ils font leur job. Ils le disent tout simplement. Nous, on fait notre travail. On n'a pas de haine, on n'a pas d'affection, on n'a pas d'empathie, on n'a rien. On n'a rien et on peut le faire. Et c'est pas si dur que ça de le faire. C'est pur, physiquement. Parce que là, ils vont vous parler de leurs ampoules, ils vont parler de leurs difficultés, ils vont parler de toute la pénibilité du travail qui montre à quel point ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. Et c'est ça le point important. C'est-à-dire que cette connaissance de ce qu'ils vont faire n'influe pas sur le fait de le faire ou pas. Pour ceux qui vont être des génocidaires. Et ça, je trouve que c'est un élément essentiel à la compréhension de ces mécanismes. C'est-à-dire qu'on voit bien, pour reprendre la question que vous me posiez avant, que l'idéologie favorise cette expression, mais ce n'est pas elle qui arme les bras.
Comment le mécanisme, ce processus génocidaire, Richard Reichmann, s'arrête-t-il?
Il s'arrête parce qu'il y a toujours des gens qui résistent. Il y a des gens qui ne veulent pas aller tuer, il y a des gens qui combattent cela. Tout le monde ne devient pas génocidaire. Ce que j'essaie de montrer, justement, c'est que à la lecture post-arendtienne de la banalité du mal a succédé celle de l'homme ordinaire. Avec l'homme ordinaire, cette qualité presque ontologique de l'homme qui serait n'importe qui peut devenir bourreau, avec toute une littérature qui a été faite là-dessus, avec une sorte même de séduction du bourreau. On se disait, chacun, mais qu'est-ce qui fait que moi je ne deviendrai pas bourreau? Et après tout, un bourreau, il est soumis à certains ordres. Est-ce que l'on peut finalement se poser la question de savoir si tout le monde ne deviendrait pas nécessairement banalisant ainsi le crime? Personnellement, je ne crois pas à cette banalisation du crime. Je ne crois pas que tout le monde devienne bourreau. Beaucoup vont le devenir, mais pas tous. Et c'est ça qui est important. Et ceux qui vont le devenir pour des raisons qui leur sont particulières, qui témoignent de ce que j'appelais la disponibilité et l'indifférence. D'autres ne vont pas être disponibles. Ils vont refuser de le faire. Alors parfois pour des raisons nobles, parfois pour des raisons moins nobles, mais ils ne vont pas le faire. Non pas parce qu'il existe une barrière inconsciente qui ferait qu'on ne tue pas son prochain, mais parce qu'ils n'y ont aucun intérêt aussi, et qu'ils ne veulent pas. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas toujours aussi difficile de refuser. Et c'est ce qui va permettre aussi que ça s'arrête. Ce qui va permettre que ça s'arrête, c'est aussi la dimension social et politique. Les hommes ont inventé un certain nombre de régimes qui sont hostiles à cela. Le régime qui est le plus hostile, c'est celui de la démocratie. La démocratie est le meilleur rempart contre la dimension génocidaire. Mais pas la démocratie au sens juste le processus électoral. Il faut bien comprendre que la démocratie, ça va bien au-delà d'aller mettre un bulletin de vote. La démocratie, c'est les contre-pouvoirs, c'est la possibilité d'une presse libre, c'est la possibilité d'enquête libre, c'est la possibilité d'une conscience citoyenne qui va faire en sorte que collectivement, les gens ne vont pas s'amuser à sélectionner la population, à décrire un certain nombre de critères qui permettent de dire ceux-là on n'en veut plus, mais on peut les faire disparaître, et qui vont s'opposer à cela. Et ça, c'est le meilleur rempart, et c'est ce qui fait que ça s'arrête.
Il faut des contextes donc précis, et sur ceux qui refusent, on y reviendra dans la deuxième partie de l'émission avec ces migrants justement qui arrivent en Europe et dont certains effectivement ont refusé d'être enrôlés, que ce soit en Érythrée, au Soudan, en Afghanistan. Je reviens à l'affaire Félicien Kabouga, Richard Reichmann. La question qui se pose est de savoir si c'est un triomphe pour la justice. Cet homme a aujourd'hui 84 ans. Le procès n'est pas sûr de se tenir, il y a une incertitude sur l'endroit où ce procès devrait se tenir précisément. Est-ce en France, est-ce en Tanzanie où siège le tribunal criminel international pour le Rwanda ou au Rwanda lui-même? La justice internationale est très lente. Cette arrestation, c'est en tout cas déjà pour commencer une victoire contre l'impunité.
Ah complètement, c'est une très belle victoire contre l'impunité. On peut dire ce que l'on veut de la justice internationale, il n'empêche qu'elle existe. Et qu'elle rend possible l'idée de se dire que ces gens-là devront rendre compte de ce qu'ils ont fait. Quand il y a eu les procès au Cambodge, beaucoup de gens se sont opposés à cela en disant « c'est trop tard, on ne juge que les plus hauts responsables » et encore, il y a eu du débat. Et la démocratie, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi le débat. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être tous d'accord, mais on est tous obligés d'en parler. Dès lors que des gens passent en jugement, alors on en parle. Ça devient une mémoire collective. Le pire, après les exterminations de masse, c'est lorsque les seuls rescapés sont les témoins de cette mémoire de ceux qui ont disparu. Vous avez des hommes qui ont tué et qui sont impunis, et vous avez des rescapés qui parlent au nom des morts. Et ça ne fait pas un espace collectif, ça ne fait pas la société. Pour que ça fasse la société, il faut que des gens qui ne l'ont pas vécu, qui ne sont pas impliqués, le sachent, portent cette mémoire. Et en soi les garants, comme dans toute la société, on est toujours garant de l'histoire collective. La justice, c'est ce qui va permettre à un moment de rendre l'ensemble de la société garante de l'histoire collective. Et pas se dire, nous parlons là juste au nom de quelques Tutsis qui ont été massacrés, nous parlons là au nom de l'humanité qui considère que ces actes sont inacceptables et que les hommes qui sont morts, on ne les oubliera pas. Et ça, c'est un point essentiel. À ce titre-là, je suis un farouche défenseur de la justice internationale, malgré ses faiblesses à certains moments, malgré ses lenteurs, et je trouve que son combat est un combat qui reste admirable et indispensable.
Les commissions justice et vérité, Richard Reichmann, vous semblent-elles insuffisantes par rapport à cette justice internationale que vous évoquez à l'instant ?
La plupart du temps, elles viennent en complément de la justice internationale. C'est-à-dire que c'est un moyen qui a été imaginé à certains moments pour que des personnes qui n'auraient pas été prises dans le cours de la justice internationale puissent quand même avoir à rendre compte de leurs actes. Donc à ce titre-là, je trouve que c'est important. Ce n'est pas une solution que l'on peut importer comme ça sur tous les territoires et sur tous les terrains. Ça dépend vraiment du contexte politique et du contexte culturel. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que ça crée du débat. Quand vous avez des gens qui s'opposent à ce type de justice, bien ça montre aussi que cette justice est utile. Elle est importante. En France, nous avons du débat tout le temps. Nous avons des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. C'est ça l'esprit de la démocratie. Lorsque vous avez une seule dimension qui prévaut, ben on n'est pas dans un régime démocratique. Donc personnellement, je ne porterai pas de jugement sur ces commissions. Je dirais simplement, je vois que là, il y a des gens qui s'y opposent et donc qui apportent des arguments et qui donc font exister une mémoire collective, un souvenir de ce qui s'est passé, qui est mis en débat sur la place publique et qui n'appartient pas seulement ni aux tueurs ni aux victimes.
Pour terminer cette première partie d'émission, le temps passe à toute vitesse. Richard Reichmann, dans le génocide au village, l'historienne Hélène Dumas montre comment les relations de voisinage ont largement facilité l'extermination des Tutsis par les génocidaires Hutus. Mais politique d'extermination était finalement planifiée de longue date, on l'a dit. Un parallèle est possible à faire entre le génocide au Rwanda et le génocide au Cambodge ?
Oui, d'abord parce que ce sont à peu près les mêmes populations. Enfin, les mêmes populations, c'est-à-dire que ce sont les gens du peuple ancien qui vont servir de petits cadres au Khmer Rouge. Vous savez, au moment de la prise de Phnom Penh, par les troupes de Pol Pot, la population va être divisée en deux. Le peuple nouveau, ceux qui viennent être conquis par les Khmer Rouges, et le peuple ancien qui abritait déjà les factions Khmer Rouges. Le peuple nouveau va être mis en esclavage et exterminé par une partie du peuple ancien, c'est-à-dire le même peuple, et souvent dans des relations de voisinage ou de proximité. La conclusion que je voudrais juste donner là-dessus, c'est que le fait d'être voisin ne protège pas. C'est pas que comment se fait-il que l'on puisse tuer des voisins, c'est l'inverse qu'il faut poser. Mmh. C'est le fait d'être voisin ne protège pas. Le fait d'être même ne protège pas, parce que l'exterminateur invente ses propres catégories.
On vous retrouve, Richard Reichtmann, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous retrouvons Richard Reichtmann, anthropologue et psychiatre, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, pour son livre « La vie ordinaire des génocidaires » aux éditions du CNRS. Richard Reichtmann, vous avez beaucoup travaillé avec des victimes du génocide au Cambodge. En quoi ce travail vous a permis de prêter attention à la vie des génocidaires et comment précisément le fait de prêter attention à cette vie des génocidaires permettent-ils de comprendre leurs gestes ?
Ce travail, comme vous le rappeliez, a débuté surtout avec les victimes du génocide. J'ai été confronté à des gens qui avaient vécu des choses absolument épouvantables et qui restaient dans une sorte de présent éternel. Lorsqu'on parlait avec eux, lorsque je les suivais en consultation, lorsque j'enquêtais, j'avais l'impression qu'on y était toujours. Un temps qui s'était suspendu à ce moment-là et où il y avait un décalage assez prononcé entre les enquêtes de terrain que je pouvais faire en tant qu'anthropologue et ce que je recueillais en consultation. Dans les enquêtes de terrain, les gens vous parlent des morts, de ce souvenir et surtout de cette nécessité de porter leur mort parce que plus personne n'en parle. Alors qu'en consultation, ils me parlaient d'eux, de leur façon d'avoir traversé ces 4 années absolument d'horreur. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que depuis de nombreuses années, on faisait parler les survivants au nom des morts et qu'on les mettait toujours à cette place-là de devoir témoigner à la place de ceux qui n'étaient pas là. Pour le psychiatre que j'étais, c'était quelque chose d'absolument aberrant parce qu'on se retrouvait dans quelque chose de paradoxal. Leurs ennemis avaient voulu les plonger dans la mort et nous-mêmes, nous les replongions encore dans la mort à faire qu'ils ne pouvaient jamais sortir de cet espace-là et finalement ne jamais parler d'eux. On a souvent dit qu'il y avait de l'indicible dans le fait de survivre à une période génocidaire. Et moi, j'ai pas trouvé qu'il n'y avait pas d'indicible. Les gens parlent, ils parlent beaucoup, mais on ne les entend pas. Regardez encore récemment aux derniers survivants de la Shoah, on leur demande toujours de parler au nom de ceux qui ne sont pas là. Ce qui est une chose absolument épouvantable, d'un certain point de vue. Si on veut savoir comment les gens sont morts, alors je me suis dit, demandons à ceux qui ont commis ces crimes. Il n'y a pas de problème, ils vont pouvoir nous dire comment on tue aussi facilement. Ils vont pouvoir nous dire où sont les corps, ils vont pouvoir nous expliquer quel a été leur geste. Donc mon orientation était moins de savoir qui sont ces hommes et pourquoi ils l'ont fait, que de les obliger à dire ce qu'ils avaient fait, afin de délester les rescapés du fardeau de leur mort. Parce que les morts, il faut que ça soit l'ensemble de la communauté qui les porte. Il ne s'agit pas que ça soit la mémoire d'un individu. Je me souviens de mes parents, je me souviens de mes frères, et après ça disparaît, donc c'est très très angoissant. En revanche, quand vous faites des monuments aux morts, c'est pas simplement pour les honorer, c'est pour que les morts réintègrent l'espace public et que tout le monde les honore et qu'on laisse les membres de la famille, finalement, continuer à vivre parce que la communauté a repris le destin des défunts. Et pas que dans les sociétés traditionnelles. Chez nous, c'est pareil. Le mort et le défunt, ce sont deux choses différentes. D'ailleurs, toutes nos rues sont des noms de morts. On honore nos morts de la même manière. On vit avec nos morts, mais pas comme des cadavres. On vit avec nos morts comme des défunts que l'ensemble de la communauté respecte et honore. Après les génocides, cette chose-là a disparu, parce que c'est une des volontés des génocidaires de tuer les individus et de tuer la mort, c'est-à-dire de faire disparaître le souvenir des morts. Seuls les survivants le portent. Faire parler les bourreaux, c'est remettre les morts dans l'ensemble de la communauté et délester les vivants. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-dessus. Surtout qu'en plus, j'en avais rencontré quelques-uns qui n'étaient évidemment jamais venus me voir pour cela. Ils étaient venus me voir pour d'autres raisons. Surtout avec les Khmers, c'était plus facile parce qu'ils se faisaient tous passer pour des réfugiés. Puis quand vous commencez à leur poser des questions et que vous vous rendez compte dans quelle région ils étaient, où ils étaient, combien de temps ils ont passé sous les Khmers rouges, là les soupçons viennent en se disant vous étiez peut-être pas du peuple nouveau. Ah oui, finalement, ouais. Et là, vous avez des discours qui arrivent tout simples, avec pas une grande culpabilité, ni ces insomnies que l'on pourrait imaginer, de gens qui regrettent ce qu'ils ont fait parce qu'ils trouvent pas ça très bien, et qu'ils ont pas aimé ça. Enfin, ça va pas plus loin, puis très vite, ils se remettent à parler de ce qui est leur quotidien, de ce qui leur pose problème, de leurs difficultés conjugales, de leurs difficultés avec leurs enfants, et qui n'a rien à voir avec les gestes qu'ils ont pu faire à ce moment-là. C'est une histoire qui est révolue comme un métier lorsqu'on change de métier. Et c'est ça qui m'a intrigué. Et c'est pour ça que je suis allé essayer de comprendre comment on pouvait avoir cette indifférence, comment on pouvait vivre avec cela, et surtout comment on pouvait se rendre disponible pour le faire et après ne plus être disponible à cela. Ce qui va aussi à l'encontre de ce qu'on a imaginé, notamment par rapport aux enfants soldats, parce que les petits officiers en Khmer Rouge sont des jeunes, ils ont entre 14 et 15 ans, parfois 18 ans lorsqu'ils font cela. Et on imagine que ceux qui ont commis de telles atrocités vont être des bourreaux acharnés de sang dans les années à venir et ne pourront jamais se réintégrer, vont continuer à tuer parce qu'ils ont fait... Ben, je n'y crois pas, je ne pense pas. Voilà, ils ont fait leur job, ce job est terminé, ils sont passés à autre chose et ils ne deviennent pas des tueurs assoiffés de sang le reste du temps. Au contraire, ils sont très très contents de pouvoir arrêter. Parce que comme ils le disent très justement, ça donne des crampes, ça donne des ampoules, c'est fatigant. Tuer 10, 20, 30, 40, 50 personnes dans une même journée, c'est un travail harassant. La jouissance n'y est pas.
Richard Reichmann, vous confrontez votre hypothèse au djihadisme contemporain et esquissez une comparaison entre les assassins du djihad et les génocidaires, comparaison qui repose sur la similitude des modalités de l'action criminelle. Commentaire.
À première vue, ça peut paraître un peu exagéré de vouloir faire cette comparaison. Parce qu'on a l'habitude d'imaginer que génocidaire veut dire participer d'un processus délibéré de génocide. J'utilise génocidaire non pas en référence à la définition juridique du génocide, je suis anthropologue, je suis pas juriste, donc je n'ai pas besoin de me limiter à cela, pour comparer des techniques de mise à mort qui peuvent se résumer de façon assez simple, c'est consiste à tuer à la chaîne des dizaines et dizaines de personnes qui sont donc sans défense, sans prendre de risque, on n'est pas dans le combat, pour une seule raison, pour ce qu'ils sont. Non pas pour ce qu'ils pensent, non pas pour ce qu'ils ont fait, non pas pour ce qu'ils risquent de faire, mais pour ce qu'ils sont au nom d'une idéologie qui est celle qui considère que ces gens-là sont soit des ennemis du peuple, soit du peuple nouveau, soit des Tutsis, soit tout ce que vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle ces gens vont être exterminés massivement, sans prendre de grands risques. Et là-dessus, évidemment, si on prend le terrorisme, le djihadisme qui a ensanglanté la France et qu'on l'isole, on se trouve devant un terrorisme presque classique. Il n'est pas classique, hein, parce que d'abord, dans le terrorisme classique, on vise des symboles forts et on revendique fortement, l'auteur revendique fortement ses actes. Déjà là, on a deux distinctions, c'est-à-dire qu'on ne vise pas toujours des symboles forts, ce n'est pas des préfets, ce n'est pas des ministres, ce n'est pas des grands hommes politiques qui sont tués, c'est la masse. Tuer le plus de gens possible en un minimum de temps, que ce soit les attentats du Bataclan ou sur les terrasses, ou que ce soit l'attentat de Nice, on voit bien que l'objectif de mise à mort est un objectif numérique. Ils sont des impurs et il faut les tuer, il faut en tuer le plus possible, avec le caractère limitant qui est celui de la survie du tueur. Mais si on sort de cette simple observation, je dirais, franco-française ou franco-belge, et qu'on le resitue dans l'ensemble du phénomène djihadiste aujourd'hui avec l'État islamique et Al-Qaïda, là on a un phénomène beaucoup plus proche des phénomènes classiques génocidaires, avec une extermination de masse, on le voit très bien avec les populations yézidis qui ont été véritablement génocidées au sens juridique du terme. Mais ce qui s'est passé à Mossoul pendant que l'État islamique avait le pouvoir relève complètement de cela avec les mêmes techniques de mise à mort. Donc j'ai pris le parti de comparer ces actes à ceux des génocidaires plutôt que, comme ce qu'on avait l'habitude de faire en France, de comparer des tueurs avec des gens qui n'avaient pas tué. D'un point de vue strictement scientifique et méthodologique, j'ai beaucoup de mal à imaginer comparer un tueur qui est parti en Syrie, qui a tué, qui revient et qui tue, avec un gamin de banlieue qui, même s'il est radicalisé ou salafiste, qui n'a jamais tué de sa vie, qui fait simplement dire deux, trois trucs, dire que c'est la même chose, pour moi, c'est une aberration scientifique. Je ne compare pas des choses incomparables. Comparer ne veut pas dire que c'est la même chose. Comparer veut dire qu'il y a des éléments qui permettent de montrer des similitudes et des distinctions. À partir de cela, eh bien, on se rend compte que les crimes commis au nom du djihad ces dernières années, sont très très proches des crimes commis au nom du marxisme au Cambodge, au nom de la haine des Tutsis au Rwanda, au nom du nationalisme serbe pendant la guerre en ex-Yougoslavie. À ce moment-là, on peut les comparer les uns aux autres.
Alors pour ce qui est des distinctions, parmi d'autres, le fait que dans le djihad, les auteurs d'attentats meurent en assassinant leurs victimes, ça n'était pas le cas des génocidaires. Le génocide de Rwanda nous en apporte la preuve, le Cambodge aussi. Un commentaire, Richard Reichmann ?
Vous avez parfaitement raison, et c'est là où on peut commencer à faire des comparaisons, c'est-à-dire de souligner des différences. Oui, il y a là deux différences majeures. La question du territoire, qui est beaucoup plus vaste dans le djihadisme contemporain, et la question de la mort de l'exécutant. Mais finalement, ce sont des différences, à mon sens, négligeables. Parce que si on part du principe qu'effectivement, l'enjeu est numérique, tuer le plus de personnes possible en un minimum de temps avec un minimum de moyens, on se rend compte que le tueur est l'instrument. Donc c'est lui qui va être l'instrument limitatif. Sa mort n'est pas un suicide altruiste, je ne le crois pas. Sa mort est la condition qui fait qu'au bout d'un certain temps, il n'est pas possible d'en tuer plus. Et que, d'une certaine manière, c'est un instrument de la mise à mort, comme une balle, un gourdin. C'est-à-dire que la place de l'individu est moins importante. Ce qui va aussi dans le sens du génocidaire. C'est-à-dire que ces hommes qui meurent, ce sont des balles, ce sont des instruments. D'ailleurs, ce ne sont jamais eux qui revendiquent. C'est toujours l'État islamique qui revendique. Et même quand on en arrête, il ne revendique pas. On le voit très bien dans le cas de celui qui est en procès en ce moment. Il ne revendique pas ses actes. Au contraire, il cherche à les minimiser. Ce qui n'a rien à voir avec un auteur d'attentat, que ce soit de l'IRA, que ce soit des Basques, qui allaient sur la scène juridique, judiciaire, pour présenter leurs arguments, déniant au tribunal toute légitimité à les juger et expliquant ce qu'ils avaient fait fièrement et... Eux, non. Lui, par exemple, comment il s'appelle déjà, celui qui est en procès en ce moment, eh bien, lui, il est en train de dire « mais j'ai pas fait grand-chose, puis voilà, j'y étais pas vraiment, c'est pas moi ». Cette position qui est critiquée par la presse aujourd'hui en se disant « mais alors, qu'est-ce que c'est un lâche ?» Non, c'est pas un lâche, c'est un petit exécutant. C'est un petit exécutant qui va trouver d'autres intérêts ailleurs, qui va trouver d'ailleurs le fait d'être chef, de pouvoir frimer, entre guillemets, devant sa mère, devant ses collègues, qui va trouver un intérêt. Mais c'est pas un idéologue qui défend sa cause. Ça, c'est un point important qui distingue le djihadisme du terrorisme classique et qui le rapproche considérablement des actes génocidaires classiques. Donc le fait qu'il meure n'est pas une distinction, à mon sens, suffisante pour écarter la possibilité d'une comparaison.
Alors, en tout cas, oui, mais c'est tout de même une façon d'échapper à la justice des hommes. On va plus loin, oui, Richard Rechman. Comment, à la lumière des connaissances qui sont les vôtres aujourd'hui, comment lutter contre le djihadisme ?
Aujourd'hui, déjà, je dirais qu'il faut avoir les meilleurs alliés avec soi. Aujourd'hui, les meilleurs alliés que l'on puisse avoir, ce sont les populations musulmanes. Ce sont elles qui sont les plus visées. C'est là où il y a le plus grand nombre d'assassinats. Et ce sont elles qu'on cible, je dirais, à tort. Parce que si effectivement, en Europe, le djihadisme était une conséquence de l'islam, l'Europe serait à feu et à sang vu le nombre de musulmans qu'il y a là. Ce qui veut donc dire que nos alliés principaux, ce sont ces populations qui sont justement réfractaires à l'idée du djihadisme. Déjà de montrer qu'il y a un décalage majeur entre islam et djihadisme. Le djihadisme n'est pas la conséquence de l'islam, il est le prétexte, si vous voulez, mais ce n'est pas la même chose. Donc c'est déjà un élément très important de séparer complètement l'idéologie djihadiste de la religion et de sortir de ces lectures trop culturalistes. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup, c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer le djihadisme à travers l'islam, à travers ce qu'on peut lire dans le Coran. C'est comme si on avait expliqué le génocide perpétré par les Khmers rouges par la tradition cambodgienne. Ça a été fait pendant un temps, tout le monde a été heurté par ça, par ce culturalisme néocolonialiste absolument insupportable. C'est comme si on expliquait le génocide des Tutsis du Rwanda par je ne sais quelle ethnicité africaine. Tout le monde s'est opposé à ça en trouvant ça absolument révulsant d'avoir un tel culturalisme. Il se trouve qu'étonnamment, avec la question du djihadisme, on retrouve tout ce versant presque néocolonialiste qui va nous expliquer que ce qui se passe est écrit plus ou moins dans le Coran. Je crois qu'il faut absolument sortir de cette lecture-là. Ce n'est pas le Coran qui pousse au djihadisme. C'est d'autres choses. Donc un phénomène politique qu'il va falloir analyser dans sa dimension politique. Un phénomène économique, puisqu'il y a de plus en plus de travaux qui nous montrent à quel point le djihadisme est probablement plus proche des mafias qu'il n'est de toute idéologie religieuse, et que l'idéologie religieuse sert ce dessin-là, pour pouvoir plus efficacement lutter comme un phénomène marginal de l'islam, mais un phénomène essentiel d'une reconfiguration politique contre laquelle il faut pouvoir lutter. Ce qui veut dire aussi que dans la population générale en France, bien plus vous allez décrocher le djihadisme de la question migratoire et de la question musulmane, plus vous allez isoler ces personnages et moins vous allez rendre possible la disponibilité. Parce que rappelons-nous ce que je disais tout à l'heure sur la question de la disponibilité. Aujourd'hui, la disponibilité est forte parce que c'est quand même connoté, même si c'est connoté très péjorativement, ça peut faire rêver certains. Donc il faut pouvoir casser le rêve, pas déradicaliser. Casser le rêve, c'est-à-dire montrer qui sont ces hommes, ce sont la plupart des lâches, des types qui prennent bien sûr quelques risques, mais enfin qui sont des tueurs basiques, qui vont aller tuer des innocents sans défense, et qu'il n'y a rien de glorieux là-dedans. Donc vraiment, casser l'idéal qui est attaché à cette pratique mortelle.
Alors, Richard Eichmann, et ce sera probablement le dernier aspect, vous lancez une sorte d'appel dans votre ouvrage, dont je rappelle le titre « La vie ordinaire des génocidaires ». Il concerne les exilés syriens, irakiens, afghans, érythréens, que l'Europe rejette à la mer, et qui sont précisément ceux qui, en risquant leur vie, ont fait le choix éthique de ne pas rejoindre le rang des bourreaux, le rang des génocidaires. Vous dites que les démocraties les laissent mourir.
Oui, c'est le point qui m'indigne le plus, parce qu'il est... Et effectivement, on se trouve devant une situation complètement paradoxale où les réfugiés, ceux qui quittent des régimes génocidaires, sont considérés comme des menaces. On a transformé des populations menacées en populations menaçantes. Mais lorsqu'on commence à analyser le discours d'un certain nombre de ces réfugiés, notamment ceux qui viennent d'Afghanistan et tout particulièrement ceux qui viennent de la grande bande frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan, où on sait que dans cette région-là, les troupes d'Al-Qaïda, les talibans et l'État islamique sont très présentes.
La fameuse zone tribale.
Exactement. Et qu'ils peuvent enrôler à peu près qui ils veulent. Pas forcément pour aller au combat, pas forcément pour aller commettre des attentats suicides, mais pour gonfler leurs troupes et faire des razzias pour se nourrir, pour voler, pour bénéficier des femmes et j'en passe. Rejoindre ces groupes-là, est probablement la chose la plus aisée parce qu'il y a la dimension de voisinage. Et contrairement aux aspects génocidaires qu'on a évoqués auparavant, sous les nazis, un juif aurait eu du mal à dire « je suis nazi ». Pendant le génocide des Tutsis du Rwanda, un Tutsi ne pouvait pas dire « je suis Hutu ». La différence était marquée. Là, la différence n'est pas marquée. C'est-à-dire que n'importe qui peut se réclamer de l'État islamique, et on le voit très bien dans les attentats qui sont faits récemment. Bah, le type dit « je suis membre de l'État islamique », et l'État islamique dit « ok, accepté, adoubé », ce qui est quelque chose d'assez nouveau. Donc, en termes de supposée disponibilité, toute la population aurait intérêt à rejoindre les rangs de l'État islamique, parce qu'elle se trouverait protégée, elle se trouverait conforme à l'idée de l'islam qu'ils peuvent avoir, si l'on imagine que c'est ainsi. Et pourtant, non. Ces groupes tribaux, comme vous dites, sont obligés d'aller recruter de force un certain nombre de candidats, et que beaucoup des jeunes, ceux qui sont en âge de se faire enrôler, préfèrent partir. Alors la question que je leur ai régulièrement posée, parce que je les reçois dans mes consultations pour réfugiés, c'est de savoir pourquoi ils sont partis, et ils disent tous la même chose. Moi, je ne voulais pas tuer. Moi, j'avais pas envie d'aller tuer mon voisin. Ils ne disent pas d'abord « j'avais pas envie de mourir ». Ils ne disent pas qu'ils avaient peur de mourir. D'abord parce qu'ils sont, la plupart, musulmans, croyants, très respectueux, et que, comme on dit, si c'est ton heure, c'est ton heure. Donc, c'est pas ça qui les a motivés. Justement, si on va dans une lecture plus culturaliste, on se rend compte que c'est pas ça qui les a motivés. Mais par contre, ce qui les a motivés, c'est que, conformément à leur idéal religieux, ils ne voulaient pas les tuer. Alors, c'est pas des intellectuels, c'est pas des militants politiques, ce sont des agriculteurs, ce sont des petits commerçants, ce sont des gens qui ont tout à perdre et qui ont tout perdu. Pas simplement pour sauver leur vie, mais pour garder leur éthique. Et dans mon bureau, j'en ai rencontré plein qui me disaient « en France, on veut pas de nous, mais je ne regretterai jamais d'être parti. Je ne voulais pas les tuer. » Eh bien, à la question qu'on se pose souvent, « qu'aurais-je fait si j'étais à une période pareille, aurais-je été bourreau ou victime ?» on se rend compte que la réponse, elle est sous nos yeux. Plein de gens décident de ne pas le faire. Et ceux-là, non seulement on les méprise, on les traite très mal dans nos rues en considérant que ce sont des potentiels terroristes, alors qu'ils ont fui cette violence-là. Je trouve ça très scandaleux.
Donc il y a un regard véritablement différent à porter. Richard Eichmann, merci. Je rappelle que vous êtes anthropologue et psychiatre, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur de « La vie ordinaire des génocidaires » paru tout récemment aux éditions du CNRS. Géopolitique, qui était signé Marie-France Chatin, Louise Caledec et Nathalie Laporte. À samedi prochain.